Tout d'abord, c'est un plaisir, hein, l'invitation pour développer et continuer un certain nombre de collaborations. Je pense que tous ceux du Centre de philosophie du droit qui viennent de Louvain-la-Neuve, qui viennent participer aux activités du centre ici à l'ULB sont vraiment enchantés parce que ça permet de nouer à la fois des contacts de recherche et d'approfondir un certain nombre de questions qu'on est en train de développer dans nos propres programmes. Donc pour moi, c'est significatif aussi de pouvoir partager cette recherche-là avec vous. Alors, là, je vais vous proposer un petit itinéraire en espérant, dans le même sens que ce que vient de faire Thomas, que ça puisse aussi vous donner les possibilités d'une réflexivité sur les différentes choses que vous avez déjà travaillées dans le cadre de ce que j'appellerais peut-être, d'une autre façon, des processus d'encadrement normatif. Donc, où souvent les modes de gouvernance contemporains, et là je suis tout à fait la présentation qu'en a donnée Thomas, ont pour finalité de mobiliser des acteurs, d'incorporer l'apprentissage de ces acteurs pour développer de nouveaux types de comportements. C'est une manière de rendre possible de meilleures formes d'évaluation des processus normatifs. C'est le discours ambiant, hein, je ne dis pas que je le sanctionne. C'est ce qui devrait donc amener une meilleure capacité d'évaluation des processus normatifs eux-mêmes et éventuellement une capacité de réforme interne de ces processus normatifs. Parfois, pour décrire ça, on utilise la notion de téléologie interne. Et je pense qu'en travaillant sur Dewey la semaine passée, vous aviez retouché à cette dimension téléologique de l'apprentissage. Alors, vous voyez, dans la démarche, petit point méthodologique que je vais vous proposer, ce qui effectivement peut-être amène à faire un pas supplémentaire, c'est une référence épistémologique dans l'interrogation sur la normativité sociale. Et l'hypothèse que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est une critique de l'inférentialisme qui est sous-jacent à l'ensemble des hypothèses de gouvernement telles qu'on les rencontre dans nos sociétés contemporaines. Donc, de dire qu'il y a un implicite inférentialiste, je vais définir bien entendu ces notions-là, et un implicite inférentialiste qui n'est pas comme tel thématisé et qui va focaliser l'ensemble des réflexions sur une attitude ou un comportement que je vais dénommer le pouvoir-faire. C'est-à-dire tout ce qui retient l'attention dans la construction des dispositifs est fondamentalement orienté vers la construction d'un renforcement de la capacité de faire des acteurs. Et c'est ce geste de viser d'une anticipation d'un meilleur savoir-faire que je vais nommer inférentialisme. Alors c'est cette critique du processus inférentialiste contemporain que je vais tenter d'articuler à la problématique de la mobilisation des groupes de la société civile dans les processus de gouvernance. Pour vous montrer que constamment aussi, ces processus ont tenté de dépasser la seule réflexivité des acteurs individuels, des compétences communicationnelles des acteurs, des compétences argumentatives des acteurs, pour évoluer vers une mobilisation de la transformation de l'interaction entre les groupes. Donc c'est un peu ces deux types de questions, l'inférentialisme et la question de la théorie des groupes, que je vais essayer de reconstruire progressivement avec vous. Si en avançant, je n'arrive pas suffisamment à éclairer ces deux hypothèses épistémologiques sur l'inférentialisme et sur la théorie des groupes, évidemment, n'hésitez pas à me réinterpeller, c'est que je n'aurais pas bien fait mon boulot. Alors, pour moi, si la théorie des groupes représente aujourd'hui, dans les questions d'encadrement des processus normatifs, un enjeu décisif, c'est d'abord parce que, historiquement, les solutions dans lesquelles nos centres ont été amenés à travailler dans les 20 dernières années du XXe siècle, c'est-à-dire des solutions de type procéduraliste, celles de type habermasienne ou celles de type rawlsienne, pour faire en gros. Ces choix épistémologiques étaient marqués par une réaction fondamentale à des théories des groupes dominantes dans les sociétés où tentaient de s'inscrire ces solutions procédurales. Les deux grandes théories des groupes dont tentaient de sortir aussi bien Rawls que Habermas, c'était d'un côté la théorie de la lutte des classes comme moteur de transformation sociale. C'est-à-dire qu'il était impossible de concevoir une théorie des groupes sans lier cette théorie des groupes à une pensée de la théorie de la lutte des classes. Et d'autre part, ne jamais oublier, parce que parfois, continentalement, on est peut-être un peu braqué sur cette histoire 60-70 du marxisme dans les sciences sociales en Europe continentale, mais il ne faut pas oublier le versant nord-américain qui, lui, était bloqué dans la politique des groupes d'intérêt. Et un des enjeux fondamentaux de la pensée tant rawlsienne que habermasienne, c'est précisément de sortir d'une idée de la démocratie qui serait régulée automatiquement par l'affrontement des intérêts majoritaires par le biais du lobbying. L'argumentation, hein, dont on peut parfois dire qu'elle n'a pas été poussée dans son processus linguistique jusqu'au bout, mais en tout cas au plan sociologique, avait d'abord essentiellement pour fonction la transparence de la rationalité des arguments par rapport à l'opacité de l'affrontement des groupes à intérêts majoritaires. Donc, ça veut dire qu'on a embrayé le pas à une réflexion sur la normativité sociale qui était quasi obnubilée par la nécessité de sortir de la prédominance de deux grandes théories des groupes envahissantes dans les années 60, 70 et 80, qui étaient la théorie de la lutte des classes et la théorie de la politique des groupes d'intérêt. Ce qui a amené ces théoriciens fondamentalement à se concentrer sur les propriétés des acteurs individuels et à mettre en évidence ce que je vais nommer la relation intra-groupe. Donc, ça ne veut pas dire que le groupe n'existe plus, mais qu'on va essayer de construire une communauté d'interaction épistémique sur les principes ou sur les arguments les meilleurs, et que dans cette communauté d'interaction linguistique, ce que l'on vise, ce sont les propriétés individuelles des acteurs, c'est-à-dire leur capacité individuelle à participer de manière constructive à un échange argumenté. Alors, cette sélection des propriétés individuelles, ça permet d'éclairer certains propos d'Habermas qui ira même, par exemple, jusqu'à parler d'une minima moralia. Minima moralia, ça veut bien dire qu'on est bien au niveau de l'individu. Rawls dit, sur la démocratie, dans les écrits intermédiaires autour de l'overlapping consensus, que ce qu'il lui faut, c'est une psychologie individuelle minimale. Et il en donne quelques caractéristiques, dont notamment la capacité individuelle à coopérer avec autrui. Individuelle. Donc on est bien sur des processus individuels qui ont été mis en position privilégiée précisément pour éviter le retour massif de solutions attendues venant de la théorie des groupes. Et ce point historique a surtout retenu mon attention quand j'ai été amené à travailler sur Lawrence Kohlberg, pour un peu revisiter, c'est un psychologue du développement moral, c'est les stats du développement moral. Il a travaillé début des années 80, il fait un grand ouvrage de synthèse sur les différents stades du développement moral que parcourt justement l'individu mis en situation de réflexion sur des dilemmes pour trouver un argument de légitimation de son choix moral. Eh bien, il a travaillé sur Rawls et il entre dans un débat assez complexe sur les différents stades de la moralité avec Habermas. Et à un moment donné, dans ce débat, Habermas dit effectivement que le psychologue social, parce qu'il est psychologue social, a une empathie spontanée à l'égard des groupes, mais que dans le fond, tout ce qu'il réfléchit pourrait très bien être réfléchi en dehors du cadre des groupes où il expérimente les dilemmes sociaux. Et c'est vrai que la réaction de Kohlberg au début des années 80, cette interpellation de Habermas, hein, Kohlberg est surtout discuté dans Morale et communication, est relativement fait parce qu'on voit qu'il est pris à devoir justifier d'un point de vue épistémologique le rôle de la théorie des groupes dans l'analyse des dilemmes moraux et il n'a pas vraiment de réponse à donner. Mais en tout cas, ça confirme dans un premier temps la voie choisie par Habermas, c'est que s'il faut renforcer un aspect épistémologique pour travailler la normativité, c'est bien d'abord et avant tout sur la sélection des propriétés individuelles des acteurs qu'il faut agir. Dans un cadre d'interaction qui sera lui-même constituant d'une relation intra-groupe. À la limite, on pourrait dire que l'arrachement aux solidarités naturelles des groupes particuliers permet l'entrée dans la communauté épistémique intra-groupe de l'argumentation. Il y a donc une décontextualisation nécessaire au test d'universalité des arguments qui est toujours lié à la trajectoire que l'individu lui-même, par sa compétence communicationnelle, va pouvoir réaliser et donc devenir lui-même un vecteur possible d'une universalisation de son point de vue particulier. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, les groupes subsistent, mais ils subsistent essentiellement en deux variantes. La première variante, qu'on pourrait appeler sa variante durkheimienne, c'est l'enracinement dans les solidarités naturelles, la solidarité des honnêtes gens ou la solidarité des métiers. Et puis, la deuxième variante, c'est la fiction d'une communauté idéale de communication, mais dont la caractéristique n'est pas tant la relation intergroupe que la capacité de l'intragroupe à devenir le lieu de l'universalisation des normes, c'est-à-dire finalement ce que Rawls va lui appeler tout simplement l'espace public. Et donc on est tendu comme ça entre une théorie générale de l'espace public où le groupe devient le lieu de la conventionnalisation sociale et de l'autre les groupes qui sont la trace des attaches naturelles, des particularismes, de ce que les économistes appelleraient tout simplement alors les préférences des individus. Cette solution me paraît relativement ambiguë dans la mesure où la capacité que l'on attribue aux acteurs est donc coupée à la fois du rôle que les groupes peuvent avoir pour construire la capacité des acteurs à entrer dans l'argumentation dans l'espace public. Donc on voit surtout l'aspect négatif du particularisme du groupe, on ne voit pas son aspect potentiellement inférentiel, d'une part, et de l'autre, le groupe, compris comme la communauté idéale constituée par l'espace public, reste posé de manière absolument idéale. Et dans l'entre-deux, ce qu'on pourrait appeler le niveau intermédiaire, ou ce que des auteurs dont je vais parler tout de suite appellent la mésoculture, ce que des auteurs appelleront progressivement une nouvelle théorie de la société civile, l'interaction de groupes en conflit semble perdre finalement à terme tout intérêt dans ce schéma procédural. Alors ce que je vous propose, c'est de reconstruire avec vous quatre arguments qui tentent de montrer les limites de cette réduction du rôle des groupes dans la normativité sociale telle qu'elle a été mise en place avec une contrainte historique que je ne veux pas minimiser, qui était la contrainte historique de sortir de la théorie de la lutte des classes et de la théorie des groupes d'intérêt. Mais le prix à payer me semble démesuré par rapport aux gains réels, c'est-à-dire les groupes uniquement marqueurs particularistes versus le groupe idéal de référence conventionnelle de l'espace public. Or, les quatre arguments, précisément un premier argument, est un argument de type évolutionniste. C'est intéressant, c'est que c'est dans les sciences économiques hétérodoxes que la première réaction va survenir à l'égard de la mise entre parenthèses du rôle des groupes dans la transformation des normativités sociales. Ça mérite d'être souligné, puisque vous voyez que d'une certaine manière, la façon de réduire le groupe à une préférence prépare clairement le terrain à une attitude de type économie néoclassique, et l'idée qu'à partir d'un détachement de la préférence avec une visée idéale, on puisse constituer une communauté en équilibre de négociation de relations démocratiques, permet d'appliquer un processus d'optimisation des relations sociales et d'équilibre des préférences les unes avec les autres. On pourrait même avoir peut-être une sorte de version hayekienne qu'Habermas évidemment renverrait d'un revers de la main, mais que l'absence d'une construction stricte du rôle de la théorie des groupes dans ces théories-là laisse ouverte comme possibilité. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours trouvé que l'interprétation utilitariste que propose Ricoeur, qu'il soutient de Harsanyi, de Rawls, est assez pertinente parce qu'elle fait pour moi exactement le même type de travail que celui qu'on pourrait faire sur Habermas. Ce n'est pas tellement que ni Habermas n'est un néolibéral, ni Rawls n'est un utilitariste, mais que la capacité de réinterpréter la position qu'ils ont construite sur la base des préférences individuelles en lien avec un équilibre idéal de la société peut être réapproprié d'une manière utilitariste ou peut être approprié d'une manière hayekienne. Pour pouvoir ne pas être approprié de cette manière-là, il faudrait précisément redonner une place mieux construite à la question précisément de l'interaction entre les groupes. Les premiers qui remarquent ça sont donc des économistes hétérodoxes, ceux qui veulent mettre en évidence les limites d'un modèle basé sur de l'individualisme méthodologique, qui n'est évidemment pas à strictement parler de nouveau, ni la position de Rawls, ni celle d'Habermas, mais qui, dans la mesure où il se fixe sur la sélection de propriétés individuelles, bien entendu ensuite de type communicationnel, lié à des processus de légitimité rationnelle, etc., ne serait pas réductible à de l'individualisme méthodologique, mais sont susceptibles d'être interprétés dans la perspective d'un individualisme méthodologique néanmoins. Alors, ce que font les économistes évolutionnistes, qui réagissent donc au paradigme des théories du choix rationnel et de la théorie des jeux classiques. Ici, je m'inspire de Jack Vroman, hein, qui refait un bilan des théories évolutionnistes en sciences économiques. Mais son hypothèse, la façon dont il la restitue, finalement, peut être reprise de manière assez simple, c'est de dire la croyance rationnelle fondamentale dans la transformation des équilibres sociaux produite par le rationalisme optimisateur consiste à sélectionner des capacités individuelles pour montrer que la meilleure capacité correspond à la meilleure adaptation. C'est tout simplement un processus de sélection. La sélection, c'est la réussite optimale du mieux adapté à une situation donnée. Et la théorie évolutionniste va critiquer fondamentalement ce point de vue qui, de nouveau, remarquez-le bien, met complètement entre parenthèses la question de la possible coexistence de groupes d'individus. Or, si l'on déplace l'attention des propriétés individuelles vers les groupes, ce qui se passe, c'est que la théorie optimisatrice de l'adaptation ne fonctionne pas. Elle est basée sur un processus de sélection. Alors que lorsqu'on porte la sélection à la dimension de l'interaction entre les groupes, on va être confronté à des processus que les évolutionnistes appellent des processus de mutation. Que se passe-t-il dans un processus de mutation? C'est tout simplement le comportement du groupe majoritaire, même moins bien adapté du point de vue des propriétés individuelles, qui l'emporte. Parce que la population majoritaire va isoler les comportements les mieux adaptés et leur enlève leurs chances de reproduction dans le milieu social déterminé. Donc pour les évolutionnistes, si l'on veut prendre en compte des capacités de transformation sociale, il faut d'abord faire attention à l'état des relations intergroupes et pas à l'état de maximisation des capacités de sélection des individus par rapport à leur comportement. Parce que ce comportement, même le plus efficace, dans le point de vue d'un équilibre optimal, pourrait être un comportement minoritaire et donc voué à l'échec dans un cadre de relations intergroupes où d'autres populations développent un autre type de comportement. Ce raisonnement hétérodoxe en économie est extrêmement important parce qu'au plan épistémologique, c'est l'opposition entre les hypothèses de rationalité parfaite et les hypothèses de rationalité imparfaite. Ce qu'amènent les évolutionnistes, c'est tout simplement une considération sur le développement social qui met en relation le choix des acteurs et des équilibres sous-optimaux. Ce que réalise un groupe majoritaire quand il impose un comportement qui n'est sans doute pas le meilleur, il réalise un équilibre sous-optimal. Mais c'est bien à partir de cet équilibre sous-optimal que va se poursuivre l'histoire de l'interaction entre les groupes. C'est ce schéma que les évolutionnistes ont essayé de mettre en jeu, notamment dans l'économie néo-institutionnaliste de type Nelson, Wilter, Williamson, North, etc., Eric Bousseau, avec qui nous travaillons à Forum à Paris. Cette hypothèse sur les groupes a eu des conséquences, je sors maintenant de la science économique, elle a eu des conséquences en particulier en réflexion sur la théorie politique et sur la théorie de la gouvernance, parce que c'est elle qui a permis, dans les années 90, le développement de la réflexion sur la gestion des biens communs, the common goods, notamment avec Elinor Ostrom et Vincent Ostrom. Ce que cette théorie permet de montrer, c'est que face à un problème de gestion de ressources collectives, l'eau, les pêcheries, etc., vous savez, toutes ces études qui avaient foisonné dans les années 90, donc quand on est devant la gestion d'une ressource collective, contrat de rivière, hein, c'est dans l'ordre des common goods, ce qu'il apparaît, c'est que face à ce qui pourrait être un comportement individuel optimisateur, imposé top-down, un comportement de négociation intergroupe, qui lui va être bottom-up, est sans doute sur papier moins efficace et va conduire à un équilibre moins optimal, donc sous-optimal. Mais ce que vérifient les études transversales réalisées par Ostrom, c'est que c'est précisément ce comportement-là qui lui aboutit, tandis que l'autre comportement engendre des inefficiences qu'il n'est pas capable de gérer parce qu'il n'a pas mobilisé la dimension intergroupe. Et donc c'est de là qu'est née cette notion communautaire, hein, de gestion intergroupe. Et là, ce qu'a fait Vincent Ostrom, qui lui est plutôt philosophe, sa compagne Elinor est plus science éco, ce qu'a fait Vincent Ostrom, c'est d'essayer d'élargir cette théorie à la théorie de la démocratie. Et il a choisi d'appeler cette théorie de la démocratie basée précisément sur des équilibres sous-optimaux liés à la négociation des comportements entre les groupes, le polycentrisme démocratique. Pour lui, ce qu'il y a d'original quand on sort des capacités individuelles et que l'on met en scène des tentatives de coordination entre des groupes en respectant des mécanismes de déplacement des intérêts d'un groupe à l'autre, c'est de créer un système fédéraliste, parce qu'après il va essayer d'interpréter le fédéralisme américain selon ce modèle-là, mais c'est d'abord un système plus radicalement, un système polycentrique, où les groupes peuvent avoir des pratiques où ils s'évaluent mutuellement dans la recherche d'un accord dont on sait par avance que c'est un accord sous-optimal, mais révisable. Donc le gain, ce que les économistes appellent ex post, le gain ex post est extraordinaire, parce que le fait de participer au processus constructeur d'un équilibre provisoire donne aussi déjà des compétences en termes de révisabilité du processus, puisque ce processus qui n'est pas top-down est un processus qu'on a contribué à mettre en place, dont on connaît à la fois les forces et les faiblesses, parce qu'il est bien dit en termes d'économie de sous-optimalité que ce processus est un processus provisoire, révisable, dont on connaît précisément, il n'est pas le processus idéal, il n'est pas la solution optimale qu'il faut implémenter, dont on connaît en même temps des forces et des faiblesses que l'on va pouvoir ensuite réviser. C'est le premier argument que je voulais vous donner. C'est un argument qui est d'abord de type épistémologique par son versant évolutionniste, et ensuite plus directement lié à la sociologie des relations intergroupes chez Ostrom dans le rôle de la démocratie. Pour moi, cet argument a essentiellement pour fonction de montrer que l'intergroupe est une dimension absolument nécessaire pour la construction de comportements collectifs révisables. C'est une première étape. C'est l'étape qui va ouvrir toute la veine de ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-institutionnalisme, qu'Habermas a essayé un petit peu de comprendre et de discuter dans l'État post-national, où il discute un petit peu Fritz Scharf, etc. Mais on voit que bon, c'est quelque chose qui reste quand même assez marginal, mais il se rend bien compte que c'est une des options fortes de la pensée de la gouvernance contemporaine. Il y a un deuxième argument qui me paraît plus fort parce qu'il nous permet de faire un pas supplémentaire, et je vous l'avais annoncé tout à l'heure, c'est l'argument développementaliste. Parce que Holberg ne va pas en rester là avec Habermas. C'est pas une petite pointure qu'Holberg, donc il ne s'est pas laissé démonter par Habermas. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller visiter ses œuvres de la fin des années 80. Parce que c'est le moment où il récolte les fruits de sa carrière. Il avait mis en place deux dispositifs différents. Il y avait des dispositifs d'intervention synchronique où on analyse les réactions de professeurs de morale à des dilemmes éthiques. Et il y avait des processus longitudinaux, c'est-à-dire où il a pris le temps d'étudier des situations sociales, parfois pendant 20 ans. Et notamment, il a été extrêmement impliqué dans le milieu scolaire et dans des études qui ont été réalisées sur le milieu carcéral. Et c'est fin des années 80 qu'il essaye de tirer les résultats de ce travail d'enquête longitudinale lié à des accompagnements de situations institutionnelles déterminées. Et c'est là que se produit chez Kohlberg une boucle importante, très significative par rapport à la démarche du séminaire, puisqu'il va, dans ce cadre-là, relire Dewey et reconstruire un argument par rapport à la position habermasienne qui va tenter d'incorporer la position de l'apprentissage démocratique chez Dewey. Alors, ce que Kohlberg va mettre en évidence dans sa réponse à Habermas, avec un délai de quasiment 8 ans finalement, c'est le caractère incontournable du rôle des groupes dans le développement moral des individus. Et donc il va reconstruire, tenter de reconstruire comme psychologue social une théorie du groupe et non plus une théorie des compétences individuelles. Et il va décrire à la place de 6 ou 7 stades du développement moral individuel une douzaine de stades de développement qui sont liés au groupe. Pourquoi cette focalisation désormais sur le groupe chez Kohlberg à la fin des années 80? C'est parce qu'il est en mesure de montrer que ses propres études et ce que Habermas avait appelé de l'empathie à l'égard des groupes consistait plutôt dans un postulat de symétrie entre l'individu et les groupes. C'était donc de parler de l'individu dans le groupe et du groupe comme si on pouvait passer de l'un à l'autre à égalité, qu'ils étaient finalement dans le même temps de découverte. Discuter entre professeurs de morale et être un groupe de professeurs de morale discutant était symétrique dans le moment de la réflexion. Et donc l'état de la réflexion des individus additionné donnait l'état de la réflexion du groupe. Or, ce que les études longitudinales de Kohlberg vont lui permettre de démontrer, c'est l'asymétrie entre le groupe et l'individu du point de vue des capacités de décision morale. Et là, donc, Kohlberg va commencer à insister sur un autre aspect qu'il avait tenté déjà de construire dans sa théorie, qui est les conséquences de la participation, de l'engagement d'un individu dans un groupe, et donc de l'identification de l'individu à des formes de responsabilité, notamment à l'égard d'un groupe, par rapport à ce qui est la capacité de justification d'une position individuelle dans le groupe. Donc le groupe sollicite l'individu au moins de deux manières différentes. Dans une manière qui peut être de se justifier par rapport au groupe, qu'on pourrait appeler une sorte de surcentrement, et dans une manière qui attire l'individu vers la gestion du collectif ou la survie du groupe ou la perpétuation du groupe, et donc dans une dynamique de décentrement. Et c'est ce jeu de surcentrement et de décentrement qui constitue une asymétrie entre la position de l'individu et la position du groupe. Le groupe, par rapport à l'individu, de ce point de vue-là, devient fondamentalement un capacitateur ou un stimulateur du jugement moral. Kohlberg, à cette époque-là, va d'ailleurs reprendre, et va indirectement, il prendra ses distances par le fait même avec Habermas, puisque bon, un des grands psychologues du développement moral avant Habermas et Kohlberg, c'est Piaget. Et la théorie piagétienne est présente dans la théorie habermasienne, notamment dans l'idée de réagencement discursif. Et là, Kohlberg, précisément dans la reprise de sa théorie des groupes, va aller chercher un auteur russe qui avait été traduit à cette époque-là aux États-Unis, qui est Vygotsky. Vygotsky est, en opposé avec Piaget, quelqu'un qui va tenter de démontrer le rôle des mésocultures dans les constructions d'apprentissage des individus. Et donc le groupe, tel que le conçoit Kohlberg dans son argument, devient non seulement incitateur et capacitateur, mais il devient une entité à part entière en tant que mésoculture dans le processus de capacitation des individus. Il va parler par exemple d'une entité collective intermédiaire, c'est un milieu de référence. La fonction du groupe pour l'individu est donc de capaciter une réflexivité par rapport à l'interaction que comme individu, je ne développe que relativement à mes intérêts propres ou à ma position interne au groupe. Donc l'argument développementaliste a fait un pas supplémentaire par rapport à l'argument évolutionniste. L'argument évolutionniste nous dit, en toute situation, le groupe va permettre de mettre en place des équilibres sous-optimaux révisables. L'argument développementaliste ajoute à cette perspective d'équilibre sous-optimal révisable un point de vue de capacitation du groupe par rapport à la participation, à l'implication des individus dans le processus même de normativité sociale. Il crée pour l'individu un espace intermédiaire entre la norme entendue comme convention sociale ici et l'intérêt particulier de l'individu. D'une certaine manière, il autonomise l'espace de la réflexivité de l'individu par rapport à ses pratiques sociales spontanées. Alors cette idée de créer donc des cultures intermédiaires d'apprentissage, puisque ce serait de ça dont seraient porteurs les groupes, hein, les groupes seraient porteurs de la capacité de créer des cultures intermédiaires d'apprentissage, donc des modes de réflexivité particuliers pour les individus. Cette idée va être prise, donc un petit peu comme chez Ostrom par rapport aux évolutionnistes, on va retrouver cette idée fondamentale de l'argument développementaliste dans ce qu'on appelle aujourd'hui les théories collaboratives de la gouvernance, c'est-à-dire des théories qui vont utiliser les partenariats entre autorités de régulation dans le champ social pour construire de nouvelles formes de culture, hein, vous avez certainement déjà entendu public-private partnership. Alors l'idée de public-private partnership, c'est exactement dans le prolongement d'un argument de type développementaliste, la construction d'une tentative de mésoculture qui permette effectivement aux acteurs impliqués, notamment par le biais des contrats, mais il n'y a pas que les contrats qui sont partie prenante de ces dispositifs, d'être en mesure de construire une réflexivité sur ce qui leur arrive dans un nouvel environnement social. Donc à ce moment-là, on attend de la normativité sociale par le biais du groupe qu'elle crée les conditions d'une nouvelle culture d'apprentissage. C'est ce que j'appelle ce moment de réflexivité autonome que met en évidence le développementalisme. C'est une deuxième fonction du groupe qui donc ici, maintenant, joue un rôle véritablement capacitateur par rapport à l'application des normes dans l'espace social. Alors un troisième argument peut permettre d'aller encore un peu plus loin que l'évolutionnisme et le développementalisme. C'est l'argument pragmatiste. On revient à des choses de nouveau que vous avez travaillées. L'argument pragmatiste va ajouter à la perspective évolutionniste et à la perspective développementaliste le rôle plus spécifique que va remplir une fonction de relation entre les groupes. Donc, puisque l'on insiste sur la fonction des groupes en tant qu'espace autonome de réflexivité, susceptible de conduire à des équilibres sous-optimaux révisables, est-ce que dans ce cadre-là, il n'est pas fondamental de mieux comprendre ce qui va advenir de l'interaction entre les groupes? Et l'argument pragmatiste est fondamentalement orienté sur l'interaction entre les groupes dans ce cadre de révision de la théorie des groupes. Alors, ce qu'apporte l'argument pragmatiste, c'est que dans l'interaction entre les groupes, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes qui appartiennent aux dispositifs. Donc là, vous avez trouvé plein de dispositifs qu'on utilise aujourd'hui, mais qui sont essentiellement liés, non plus cette fois à la stimulation des individus par le groupe, mais à la stimulation des groupes par les dispositifs d'encadrement sociaux. Donc c'est ça le 3. Le pragmatisme apporte maintenant un mécanisme supplémentaire qui va être directement lié à l'action sur les groupes. C'est pour ça que chez nous, on insiste sur le fait que c'est dans les théories pragmatistes de la gouvernance que se joue le passage à la gouvernance comprise comme forme d'action collective. Puisqu'on va non plus tenter d'agir directement sur les individus, mais on va tenter réellement d'agir sur ce niveau qui s'est solidifié dans l'argument évolutionniste et dans l'argument développementaliste. On va tenter d'intervenir directement sur le processus d'action des groupes. Donc les groupes sont pris eux-mêmes comme des lieux de réalisation des normes sociales. Alors l'argument pragmatiste, lui, consiste à ouvrir ce qu'on pourra appeler une boîte noire qu'on a déjà mobilisée à plusieurs reprises, la boîte noire de l'action conjointe. Donc, quand on mobilise la théorie des groupes, on suppose évidemment que les groupes vont produire, à travers leur partenariat, public-private partnership, à travers leurs attitudes collaboratives, ils vont construire de nouvelles cultures qui permettra une meilleure réflexivité par rapport à la révisabilité des normes. Okay? C'est toujours ça le schéma. Eh bien, ce mécanisme semble être le résultat spontané de l'interaction entre les groupes. Le pragmatisme, lui, ouvre cette boîte et va essayer de montrer comment il ne s'agit en aucun cas d'un résultat spontané de l'interaction entre les groupes, mais que l'interaction entre les groupes doit elle-même être construite et orientée. Donc si l'évolutionnisme et le développementalisme nous ont permis de voir qu'aucun équilibre social révisable ne peut être produit sans l'interaction entre les groupes, il ne résulte pas pour autant automatiquement de l'interaction entre les groupes un équilibre social. Donc, les pragmatistes vont tenter d'identifier un ensemble de mécanismes qui permettent de permettre aux groupes, qui permettent d'aider les groupes à opérer une réflexivité dans leur interaction. Ces mécanismes, tu en as cité quelques-uns tout à l'heure, Thomas, ça va être le benchmarking, l'error detection, le co-design. C'est toute une série de mécanismes que ces auteurs appellent des mécanismes pragmatiques, dont la fonction principale est d'encadrer une possibilité, je reviens au terme de Dewey, une possibilité d'enquête conjointe par les groupes. Ce qui va se traduire plus pragmatiquement parfois dans des papiers plus de vulgarisation du problem solving. Le problem solving, ce n'est pas le dispositif qui nous permettrait de croire que dès qu'on cherche une solution à un problème, on parvient à coopérer, mais c'est au contraire le cadre méthodologique par lequel un processus d'enquête permet d'organiser l'interaction entre les groupes. Et l'organisation de l'interaction entre les groupes a pour finalité essentielle de les rendre réflexifs en cours d'action par rapport à leur action. C'est-à-dire de créer dans le processus même de l'action une auto-évaluation de l'action. C'est vraiment ça l'idée que défend fondamentalement cette téléologie de l'enquête sociale inhérente à la position pragmatiste. Que ces néopragmatistes, hein, dont je suis en train de commenter les écrits pour le moment, c'est que ces néopragmatistes vont appeler l'expérimentalisme démocratique. Finalement, ce cadre méthodologique dans lequel nous fait entrer l'argument pragmatiste, c'est un cadre d'expérimentation sociale. La démocratie ne pourrait ultimement se réaliser pas seulement par la garantie d'un polycentrisme collaboratif comme dans l'argument développementaliste, mais par l'encadrement de ce polycentrisme, sans quoi ce polycentrisme, c'est l'éclatement de la pluralité des centres, ou bien c'est la fusion de ces centres. Donc il n'y a pas automatiquement de la mise en évidence de la nécessité de l'intergroupe pour un processus d'équilibre sous-optimal, il n'y a pas automatiquement un résultat de réflexivité du point de vue de la démocratie. Ce qui va permettre ce résultat, c'est la téléologie de la méthode expérimentale qui va organiser l'interaction entre les groupes avec ces mécanismes pragmatiques qui sont des mécanismes à finalité interne, c'est-à-dire qui permettent aux acteurs eux-mêmes, dans leur action, d'évaluer leur action. Ces mécanismes donc ont pour fonction de construire progressivement, là je reviens à ta remarque de tout à l'heure, hein, d'apprendre à apprendre. Ou comme disent ces auteurs-là, non plus « choosing » but choosing how to choose, qui est exactement la même idée. Non plus choisir, mais choisir comment choisir. Et donc d'être en mesure progressivement d'une réflexivité, y compris, c'est ça la cohérence de ce point de vue-là, et que j'appelais tout à l'heure téléologie interne, d'être y compris en mesure d'évaluer par eux-mêmes les mécanismes par lesquels ils peuvent s'évaluer. Et donc de réformer éventuellement les mécanismes d'assessment. Et donc dans le centre, nous avons un chercheur qui travaille notamment sur tous les mécanismes d'assessment liés à la biodiversité. Qu'est-ce que l'on fait dans ces mécanismes-là? D'abord, premièrement, on solidifie des réseaux avec la société civile et on demande à des partenaires de la société civile de devenir eux-mêmes des auditeurs des pratiques d'intérêt public. Et en construisant cette nouvelle culture où un partenaire qui, au point de départ, n'était pas dans une capacité d'assessment, acquiert une capacité d'assessment, et avec la capacité d'assessment, un nouveau type de financement. Donc, il se transforme en termes d'individus. Et en procédant à cette transformation, on crée aussi la capacité d'une réforme progressive du mécanisme d'assessment lui-même. C'est bien ça qui est recherché. Donc là, on peut assister alors à la transformation, ce sera mon dernier point, mon quatrième argument, parce que c'est là qu'il y a, à mon sens, un pivot qui est quand même extrêmement problématique. On peut assister à travers ces mécanismes sans que jusqu'à présent, en aucun cas, la question n'ait été posée. On peut assister à une transformation radicale de l'identité de ces acteurs. Vous pouvez avoir un groupe environnementaliste international de type activiste qui tout d'un coup devient auditeur d'un processus. Quelle est encore cette identité? Comment reconstruire? À la limite, je ne dis pas que nécessairement hein, noir, blanc, bien, mal, mais il se passe quelque chose qui, jusqu'à présent, dans les trois arguments que nous avons vus, n'a pas été interrogé, en aucun cas. Mais ces trois arguments montrent bien que nous sommes effectivement actuellement en plein dans ces théories de la gouvernance, qui sont comme une deuxième vague après les théories procédurales, qui redonnent une place à la théorie des groupes, qui solidifient cette place pour des raisons évolutionnistes, pour des raisons développementalistes et pour des raisons pragmatistes. Et ce processus de solidification de la mobilisation des groupes dans la régulation sociale aboutit à l'incorporation par les groupes d'une autotransformation de leur identité de groupe dans un mécanisme d'interaction. Ceux qui développent le mieux ça, parce qu'avec une conscience épistémologique plus aiguë, mais un positivisme naïf terrifiant, c'est Inès et Bauer, c'est tout le mouvement du Policy Deliberative Analysis. Il y a un collectif sur ça, c'est aussi Robert Goodin, en Australie, qui est dans cette voie-là. Alors, ils disent carrément, voilà, grâce à ce type de solution que nous proposons, nous aboutirons pour les groupes, et ils déclinent ça en trois termes qui sont quand même très parlants, new heuristics, new meanings, and new identities. C'est en même temps, pour eux, ce qui est le potentiel extraordinaire d'une reconstruction du rôle des groupes dans une gouvernance comprise comme action collective, et donc qui permet notamment de comprendre comment des blocages peuvent être dépassés par la prise en compte de nouveaux rôles possibles dans l'interaction entre les groupes. Mais en même temps, le fait que ces groupes soient potentiellement en complète redéfinition d'eux-mêmes, y compris, c'est pour ça que je prenais l'argument matériel économique, par un apport tout à fait différent avec les contraintes qu'ils suivent sur leur mission, en tant que groupe, cet aspect-là n'est pas interrogé jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je viens à un quatrième argument qui, lui, n'est pas tellement critique par rapport à cette transformation, mais en fait l'enjeu fondamental, c'est ce que je vais appeler l'argument génératif. Donc, en fait, ce qui est clairement possible par la référence que l'on vient de faire à la théorie des groupes et par l'encadrement de l'interaction des groupes dans un sens pragmatiste, c'est bien la génération de nouvelles identités de groupe. Et c'est ce que va mettre en évidence l'argument génératif. L'argument génératif, je le construis à partir d'un théoricien des organisations que vous connaissez certainement, qui est Donald Schön, qui travaille avec Argyris, avec Martin Rhine. Mais Donald Schön en particulier est quelqu'un qui a de nouveau un spectre d'expérimentation sociale très 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 large, un peu comme Kohlberg aussi, donc qui a à la fois travaillé avec les entreprises du secteur de la chimie, mais qui a travaillé avec dans des bidonvilles en Afrique du Sud, donc ça donne un peu un spectre très très large, avec des groupes de commissions scolaires. Donc vraiment ce type d'expérimentation transversale qu'on trouve dans les théories organisationnelles. Et il revient à l'argument des pragmatistes pour en montrer l'insuffisance. C'est-à-dire que les pragmatistes vont résoudre la question de l'interaction entre les groupes par des mécanismes à incorporer par les groupes eux-mêmes. D'abord, est-ce que ça signifie qu'il faut donc une autorité de régulation qui a ce savoir éclairé de déterminer quels sont les bons mécanismes? Alors, comme Charles Sable, que j'ai étudié dans ce cadre-là, a travaillé aussi sur le système de Toyota, on peut concevoir que là, on a une autorité de régulation, si pas peut-être avec un savoir éclairé, mais en tout cas qui a le pouvoir de proposer des mécanismes pragmatiques. Donc on est dans le cadre de l'entreprise. Mais il a aussi, Sable, travaillé avec des commissions scolaires, il a aussi travaillé avec la communauté européenne, il a participé avec Dorf aux négociations sur les trois gouvernements en Grande-Bretagne et en particulier sur la négociation de la constitution écossaise. Donc il a également un spectre beaucoup plus large, mais finalement ce qui manque du point de vue de Schön dans cette construction, c'est essentiellement ce qui est supposé d'une capacité d'incorporation par les groupes de mécanismes qui leur sont imposés de l'extérieur. Donc continuons à poser qu'effectivement dans toute forme de relation sociale, des mécanismes de normativité sont imposés comme des règles du jeu de l'extérieur. Mais ce que ne permet pas de comprendre le pragmatisme, c'est comment il y a effectivement une incorporation de ces mécanismes qui va permettre au groupe, sans de nouveau une forme d'automaticité, de créer de nouvelles heuristiques, de nouvelles significations et de nouvelles identités. Et donc il y a une deuxième boîte noire cachée derrière celle que tentaient d'ouvrir les pragmatistes. Oui, on peut donner un rôle au groupe, mais le rôle des groupes, il n'est pas totalement épuisé quand on a simplement défini les mécanismes pragmatiques qui vont permettre d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre est une sorte de formule piège qui ne permet pas de comprendre ces deux fois apprendre. En épistémologie, on n'aime pas ce genre de truc, hein, parce que tout d'un coup, on met deux significations à apprendre, comme dans Choosing or to choose, hein, même chose. Or, là, il y a fondamentalement le passage d'un acte intellectuel d'un type à un autre acte intellectuel d'un autre type. Et le pragmatisme n'éclaire pas ce présupposé. Or, c'est bien la clé de son incorporation. Les groupes ne deviendront libres dans leur interaction au sein de la production d'équilibres sous-optimaux révisables que si ils parviennent effectivement à influencer et à redéfinir les conditions de l'assessment. S'ils n'en sont que les jouets qui sont transformés dans leur nature identitaire par les mécanismes pragmatiques dans lesquels ils ont été embrigadés, hein, là on pourrait revenir à la thèse de l'embrigadement social ou de l'enrôlement social, eh bien à ce moment-là, les groupes finalement sont des objets, sont manipulés au sens strict. Donc Schön, comme théoricien des organisations, dit finalement, et c'est mon quatrième argument, que ce qui va donner de façon décisive un rôle au groupe, c'est la capacité d'élucider le mécanisme d'incorporation, de transformation et d'influence des groupes sur ces règles externes d'apprentissage qui leur sont imposées comme règles du jeu. Et l'hypothèse que formule Schön à cet égard, c'est de dire que ce qui joue fondamentalement dans ce mécanisme, c'est, et lui donc va créer des concepts là où les autres jouaient sur une équivalence sémantique entre deux opérations différentes, c'est de rendre possible un apprentissage par attention sélective. Vous voyez pourquoi j'avais utilisé un argument évolutionniste tout au départ. On retrouve, comme par hasard, le langage de l'évolutionnisme, rendre possible le passage d'une attention sélective à une attention générative. Si les groupes déplacent le mécanisme d'attention qu'ils utilisent par rapport à eux-mêmes dans l'action collective, alors ils sont en mesure d'exercer effectivement un contrôle sur les règles d'assessment. Donc, d'abord, vous voyez, ce que fait Schön, c'est d'identifier pour la première fois ce qui est supposé identique dans Choosing how to choose ou bien dans Apprendre à apprendre. Il met en évidence fondamentalement deux opérations intellectuelles différentes. Et il pose le problème des conditions de passage d'une opération intellectuelle à une autre. Apprendre à apprendre, pour Schön, c'est parvenir à engendrer un comportement dans un domaine non normal d'utilisation. Tant que vous répétez un acquis dans un domaine normal d'utilisation, vous ne faites que sélectionner les bonnes conditions d'application de ce que vous savez déjà. Ça, c'est l'attention sélective. Mais à partir du moment où ce que vous avez appris dans un domaine déterminé, vous tentez par des mécanismes d'analogie, de représentation, de l'appliquer à un domaine qui n'est pas le vôtre, mais où vous avez un certain nombre de capacités que vous sentez être en mesure, que vous intuitionnez, susceptibles d'être transposées, ce travail de transposition des capacités dans un domaine non normal d'application, ce déplacement, c'est pour Schön l'apprentissage réflexif. C'est ce qui constitue des collectifs intelligents. C'est pour le moment ce qui est laissé en suspens dans l'argument pragmatiste. L'argument pragmatiste, d'une certaine façon, pose que si je demande à Greenpeace d'être l'évaluateur d'un processus d'implémentation d'hydroélectricité sur la côte belge, eh bien, il va automatiquement transposer ses capacités d'intervenant environnementaliste dans des capacités d'intervenant évaluateur. Pour Schön, ce déplacement n'a rien d'automatique dans le rôle des groupes à l'intérieur d'une société démocratique. Ce déplacement suppose de pouvoir passer de ce qui est l'attention dans un domaine normal d'application, de ce qui sont des compétences acquises par une histoire déterminée, à une application de ces mêmes capacités dans un domaine non normal d'application. Et selon Schön, ce qui va jouer entre ces deux moments, c'est la capacité de représentation d'un nouveau rôle social. Donc on ne peut éliminer dans le groupe, ce que fait malheureusement l'argument pragmatiste, on ne peut éliminer dans le groupe la fonction médiatrice de l'imagination, de la représentation d'un nouveau rôle social. C'est un point qu'on avait touché, ça m'avait fort frappé avec Julie chez les juristes, parce que ça, je ne m'attendais pas du tout à la réaction des magistrats dans ce sens-là, quand on avait parlé du juge qui doit apprendre à juger. Et donc de mettre le juge dans la position de l'apprenant par rapport au fait qu'il est en même temps déjà juge en tant que juge, mais qu'il doive progressivement devenir en même temps ce qu'il est déjà par la fonction qu'on lui a donnée. Cette dimension donc d'être dans un rôle de collectif apprenant tout en étant dans le rôle d'un collectif qui rend la justice, hein, on se rendait compte que dans la discussion, il y a une prise de conscience d'un autre rôle social, vraiment. D'un autre rôle social. Et ça, précisément, c'est l'argument génératif. L'argument génératif montre que le travail sur le groupe ne se limite pas à un rapport d'automaticité entre la capacité du groupe et la résolution d'un problème dans l'espace social, mais qu'il suppose une transformation de capacités appliquées à des domaines habituels à une application à des domaines non habituels, et que pour y arriver, la médiation fondamentale dépend de la représentation d'un autre rôle social par rapport au rôle attendu lié aux capacités. Et ça, le seul auteur qui, dans tous ces arguments qu'on vient de travailler, met cette dimension-là en évidence, c'est précisément Donald Schön. Avec son expérience de psychologue de l'éducation, avec son expérience de théoricien des organisations, pour lui, cette capacité que les groupes peuvent se donner par la représentation de nouveaux rôles, de transformer ou de faire basculer leur attention sélective à une attention générative, est la clé que manque fondamentalement le pragmatisme. Ce qui fait, remarquez bien, que dans le pragmatisme, la transformation de l'identité est une conséquence, tandis que chez Schön, elle devient nécessairement un moyen terme. C'est-à-dire qu'on ne développera une attention générative, c'est-à-dire qu'on appliquera de façon pertinente et cohérente des capacités dans un domaine non normal d'application, qu'à condition de passer par cette représentation d'un autre rôle social qui vient s'additionner à d'autres rôles déjà présents à l'intérieur du groupe. Et c'est ce travail que Schön et Rein appellent du reframing social, un recadrage de la position du groupe dans l'interaction entre les groupes. Ce passage, pour Schön, est un passage obligé vers une attention générative. Alors, l'intérêt du travail de quelqu'un comme Schön, c'est, comme je vous disais, d'avoir plusieurs champs d'expérimentation et aussi d'avoir tenté de vérifier et de mettre en doute cette théorie aussi dans des situations particulièrement conflictuelles. Et notamment donc, dans des conflits urbains liés entre la propriété terrienne dans les banlieues urbaines en Afrique du Sud. Et ça lui a permis de dépasser, je dirais encore, ce qui est une sorte de schématisme de la représentation dans le passage de l'attention sélective à l'attention métaphorique, hein, donc où il y aurait un travail lié à la représentation qui rendrait possible le passage de l'un à l'autre, pour essayer de dénommer ça encore d'une autre manière. Et en tenant mieux encore en compte l'identité donnée d'un groupe et le rapport génératif à l'identité. Et ce qu'il va mettre en évidence dans ses études en Afrique du Sud, c'est en particulier le rapport non plus entre l'attention sélective et l'attention générative, mais entre les histoires sélectives des groupes et les histoires génératives des groupes. Donc là, il nous ramène encore plus directement à ce qui, d'un côté, est la source possible d'un échec de l'intergroupe. C'est ce que ça amène. Donc ça renforce encore son argument. Ce qui est la source possible, pas d'idéalisation de l'intergroupe, nécessité de l'intergroupe pour déséquilibres sous-optimaux révisables. Mais pas de réussite automatique de l'intergroupe. Pour les pragmatistes, bien évidemment, puisqu'il faut des mécanismes que l'on va incorporer. Mais pour Schön, plus radicalement encore, parce que l'échec de l'intergroupe est aussi lié à la nature de la relation intergroupe, c'est-à-dire à la mobilisation par chacun des groupes dans une interaction sociale d'une histoire causale de la réalité. Et cette histoire causale de la réalité, elle est liée à la répétition du même schéma interprétatif. Je suppose que ça doit exister chez d'autres auteurs, mais moi, ça m'a beaucoup interpellé, parce qu'en fait, ce qu'il défend comme idée, c'est que le groupe se constitue dans une identité sélective, c'est-à-dire quoi qu'il advienne de nouveau dans la donne sociale, l'histoire sélective consiste à réinterpréter la nouveauté en fonction de ce qui était déjà donné. Quel que soit l'événement, quelle que soit la marque de bonne volonté de l'autre, quelle que soit sa volonté de coopération, quel que soit l'événement dramatique qui survient, l'histoire causale sait déjà que cet effet est lié à cette cause. Et donc elle sélectionne exclusivement dans ce qui survient au plan social, ce qui lui permet de réaffirmer sa compréhension causale de son identité. Cela, c'est la nature même de ce qui peut constituer par excellence l'échec de toutes les formes de relations intergroupes, qui peut nous amener à régresser vers les solutions de la politique des groupes d'intérêt, opacité de la défense des préférences, ou à la théorie de la lutte des classes. Ce qui peut justifier l'idée d'évacuer l'interaction des groupes pour s'en tenir à la stimulation des propriétés individuelles des acteurs. Mais précisément pour Schön, cette situation causale qui bloque les groupes dans des identités sélectives peut être dépassée à condition précisément que les groupes puissent effectivement, dans leur processus d'interaction, se donner la possibilité d'une nouvelle histoire commune. Et la possibilité d'une nouvelle histoire commune, c'est de nouveau la construction, le recadrage, la construction de nouveaux rôles que l'opération sélective oblitère complètement. Donc pour Schön, ce qui se passe dans le processus intergroupe, c'est la possibilité fondamentale de dépasser des identités de blocage dans les relations entre les groupes pour construire à partir de l'imagination de nouveaux rôles la possibilité d'une nouvelle histoire commune. Alors la petite pierre que j'amène encore à cette réflexion, si vous me permettez, c'est de relire encore cette séquence argumentative en y amenant une petite critique sur son présupposé inférentiel qui se maintient. Donc, aussi loin qu'on soit allé avec l'argument évolutionniste, l'argument développementaliste, l'argument pragmatiste et maintenant l'argument génératif de Schön, ce que vous remarquerez, c'est qu'on essaye d'aller le plus loin possible dans la réduction d'un effet d'automatisme qui serait lié au succès d'une mise en situation de collaboration des groupes les uns avec les autres, par une feuille de route ou par un cadre coopératif quelconque. Et donc on tente véritablement de dépasser l'automatisme, et celui qui va le plus loin dans la tentative de dépasser l'automatisme, c'est celui qui parvient le mieux, me semble-t-il, à caractériser les blocages qu'il faut réduire pour construire, grâce à de nouvelles représentations de rôles sociaux, une nouvelle histoire commune. Pour moi, ce geste reste encore fondamentalement, néanmoins, comme tu disais aussi, un geste qui est déterminé par une téléologie interne et un geste qui est inférentialiste, parce que ce qui, à la lecture et au travail sur Schön, me pose le plus question, c'est sa capacité à définir ce qu'il en est des les conditions du blocage de la relation intergroupe, et de supposer néanmoins que l'opération de reframing en elle-même et de façon projective inférentielle va suffire automatiquement à avoir raison de ces blocages. Et là, je me demande si on n'est pas dans une des croyances les plus fondamentales de nos mécanismes contemporains de gouvernance. C'est-à-dire l'incapacité de travailler moins sur le pouvoir-faire qui va être imputé au groupe dans ces dispositifs de plus en plus affinés d'assessment et de contrôle de l'assessment et d'incorporation de l'audit, etc. Donc d'insister fondamentalement sur ce pouvoir-faire et cette incapacité parallèlement à s'interroger sur ce que moi je nommerais les conditions de faire pouvoir. Du pouvoir-faire. Jeu de mots pour le moment. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? C'est que ces blocages, qui sont peut-être le mieux identifiés par Schön, ce qui ferait par exemple qu'un juge aurait une certaine résistance à participer à des processus d'apprentissage avec des non-juristes, par exemple. Un exemple pris au hasard comme ça. Est-ce qu'on peut supposer que le dispositif d'interaction entre groupes, même ouvert à la fonction de représentation du collectif apprenant. Et même cherchant à institutionnaliser ce nouveau rôle comme une condition même de l'exercice de la profession, hein, bon, jusqu'au bout. Peut-on supposer que dès lors, automatiquement, les blocages qui pouvaient exister par rapport à ce rôle vont disparaître, vont être levés parce qu'on aura constitué les conditions d'une nouvelle donne sociale? N'y a-t-il rien à apprendre des blocages? Les blocages sont-ils exclusivement à interpréter comme des erreurs épistémologiques, c'est-à-dire comme les histoires causales qui enclenchent la répétition de la sélection et empêchent d'imaginer la nouveauté? Ou bien faut-il décidément interroger aujourd'hui dans les mécanismes qui souvent nous sont proposés ou imposés, faut-il interroger de façon plus décisive la reconstruction des identités? Des identités prises ici comme ce qui constitue les missions d'un acteur collectif dans un rapport intergroupe susceptible de construire un équilibre sous-optimal révisable. Dans les blocages se trouvent notamment un certain nombre d'attitudes défensives. Revenons à l'exemple de Greenpeace. Greenpeace, par rapport à un producteur d'électricité en situation monopolistique, je pense que son blocage fondamental normal en tant que groupe activiste environnementaliste va être de se poser en situation adversariale vis-à-vis de ce management agressif et monopolistique, éventuellement d'utiliser les critiques que fait la communauté européenne en termes même simplement de libre concurrence par rapport à ces nouveaux monopoles de facto. Peut-il dès lors, dans ces conditions de positionnement adversarial, jouer un rôle actif, positif, constructif en termes d'assessment de la libéralisation du marché de l'électricité? Qu'est-ce qui manque là? Mais qu'est-ce qui manque pour que... Pour moi, c'est une question qui n'est pas seulement liée à Greenpeace. Hein, qu'est-ce qui manque fondamentalement pour que tout groupe d'acteurs porteurs de la représentation d'intérêts collectifs puisse être effectivement en mesure de pénétrer ces mécanismes qui sont supposés ouverts à la réflexivité, à l'assessment? Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui à une organisation syndicale de se positionner dans une capacité d'évaluation à l'égard de questions aussi brûlantes que celles des services publics? La position défensive, elle est définie sans problème. De l'autre côté, les règles du jeu aussi. Hein. Pour le moment, le face-à-face de la transformation des règles du jeu et de la position défensive est une somme nulle. Et donc la possibilité pour cet espace démocratique de construire une culture intermédiaire montrant que les solutions qui sont proposées sont des solutions sous-optimales nécessairement révisables et pas la joie du grand marché libéralisé produisant de nouveaux équilibres et de l'électricité moins chère, etc., sont nécessairement des équilibres sous-optimaux révisables, dans lesquels la révisabilité dépend de l'incorporation par des acteurs intermédiaires de capacité d'assessment, d'influence. J'aime beaucoup un auteur qui travaille sur le système de santé anglais, qui est Peter Vincent Jones, qui dit « More choice, more control, more influence ». S'il n'y a pas ça, un système de santé fout le camp. Donc, en anglais, c'est de quoi il parle. Hein. Un système de santé fout le camp, c'est-à-dire si les patients, hein, donc imaginez après 5-6 livres blancs sur l'état du système de santé en Angleterre, où ils se disent on a tout raté, donc il y a au moins ça d'intéressant. Et un système de santé doit donner plus de choix, plus de contrôle et plus d'influence aux patients à l'intérieur du système de santé. Ce qui fait que le terme patient devient un peu bizarre, bien entendu, heureusement. Mais ce type d'interrogation pose véritablement la question, non pas d'un pouvoir-faire, conférée par le dispositif, mais d'abord d'une identité liée à un faire pouvoir des acteurs. Quand on pose la question, comme je faisais tantôt, de l'acteur syndical, par exemple, à l'intérieur du processus de libéralisation du service public, mais c'est toute la conception même de la représentativité dans l'acteur syndical, pas au sens libéral, je parle ici, de la représentativité de l'acteur syndical dans sa capacité d'interaction dans le champ social, qui est remise en question. Et pour le moment, je trouve que ces hypothèses sur lesquelles nous avons travaillé ont le mérite extraordinaire de nous ramener sur une question fondamentale qui est celle de l'interaction des groupes dans la société, mais de nous laisser profondément démunis sur la question la plus radicale, qui est celle de la transformation des identités pour devenir effectivement dans ces dispositifs des acteurs incorporant non pas de nouveaux rôles, mais incorporant plus de choix, plus de contrôle et plus d'influence. Voilà ce que je voulais vous partager.